20 ans. C'est le temps que ça m'a pris pour répondre à une question. Comment je peux faire avec mon diabète de type 1 pour stabiliser mes glycémies et en même temps avoir la vie que j'ai envie d'avoir? Dans ce podcast, j'invite d'autres diabétiques de type 1. Je donne la parole à ceux qui nous entourent, ceux qui étudient le diabète ou qui le soignent. On partage nos expériences bien sûr, mais aussi des infos et des conseils pour vous aider à mieux comprendre, mieux gérer et mieux vivre le diabète. Aujourd'hui, je reçois Grégory, journaliste, papa et diabétique de type 1 depuis tout petit. Ses quelques décennies de diabète, ça lui a laissé pas mal d'années pour se former et s'informer, apprendre à gérer son diabète comme un chef, en toute liberté et surtout sans trop de pression. Il nous parle de ses voyages en sac à dos, des craintes qu'il a pu avoir au milieu de la pampa en Amérique latine, mais aussi des solutions qu'il a toujours su trouver pour que tout roule. Tout comme pour exercer son métier de journaliste d'ailleurs. Bien sûr, il y a eu des craintes, des situations difficiles à gérer, mais surtout, toujours des solutions. Il nous parle de sa participation à un programme de recherche qui se penche sur les enfants de diabétiques de type 1 et de mille et une autres choses. En fait, vous allez vite vous en rendre compte, on parle très facilement de tout avec Grégory, avec beaucoup de légèreté, ce qui, qu'on se le dise, fait du bien. Pour info, le Louis qu'on évoque pendant l'épisode, c'est Louis Belval, l'invité du tout premier épisode du podcast. Car Louis et Grégory se connaissent depuis un petit moment, mais ça, je laisse Grégory nous l'expliquer d'ici quelques minutes. Allez, c'est parti, je vous laisse en notre compagnie.
Je te propose de nous parler un petit peu du moment où pour toi le diabète est intervenu, comment ça s'est passé dans les débuts, quel âge tu avais, etc. Voilà, remettre un peu tout ça en contexte.
Alors moi, j'ai aucun souvenir de quand ça a commencé parce que j'avais 2 ans. Le seul souvenir, enfin, j'ai pas de souvenir, mais tout ce que je sais, c'est ce qu'on m'a raconté, ce que mes parents m'ont raconté. Voilà, que j'étais petit, que tout d'un coup, je me suis mis à beaucoup boire, à beaucoup faire pipi dans ma couche. Et ensuite, que, bah, voilà, ils m'ont emmené voir le médecin, que le médecin a dit qu'il faut tout de suite aller à l'hôpital. Et c'est là que ça a commencé. C'est quand à l'hôpital, ils m'ont fait premier contrôle, premier dextro, et qu'ils se sont rendus compte que j'avais beaucoup trop de sucre dans le sang. À partir de là, ils m'ont gardé à l'hôpital pendant, je ne sais plus, une vingtaine de jours, je crois, de ce qu'on m'a dit. Et voilà, et c'est comme ça que ça a commencé. Donc moi, je n'ai aucun souvenir, et c'est peut-être ma chance d'ailleurs, parce que j'ai toujours vécu avec le diabète et j'ai toujours été habitué à me faire mes contrôles de glycémie, à me faire mes injections avant et après les repas. Enfin voilà, donc c'était une habitude que j'ai eue et j'ai cette chance-là. Enfin, moi, je considère que c'est une chance de ne pas avoir eu d'avant et d'après et du coup, de ne pas regretter... l'époque où je pouvais me gaver de bonbons ou boire du coca tant que je voulais. Voilà, j'ai été habitué dès le départ à pas trop manger de sucre et c'est pas plus mal comme ça d'ailleurs, hein, c'est plutôt pour les habitudes alimentaires. Donc j'ai eu j'ai pas eu de rupture avant après le diabète. Après, j'ai eu aussi cette éducation qui fait que et les médecins et mes parents m'ont jamais privé de quoi que ce soit. J'ai toujours pu manger comme je voulais. C'était simplement l'idée de dire, si tu manges un peu plus de sucre, on va faire, c'est un goûter d'anniversaire, lâche-toi, enfin, fais comme les autres. C'est juste qu'après, il faudra faire plus d'insuline ou compenser, aller se défouler un peu plus ou courir un peu plus pour essayer de faire un peu de réduire un peu le taux de sucre dans le sang. Mais j'ai eu cette chance de pas avoir de limitations ou d'interdictions liées au diabète qui ont fait que je me suis jamais senti vraiment bridé par la maladie ou empêché par la maladie. Et donc j'ai 38 ans, donc c'était il y a 36 ans. On faisait ça avec des seringues. Il fallait mélanger les insulines lentes et rapides. Et donc j'ai d'abord connu les seringues, ensuite les stylos. Et ça fait 9 ans maintenant que je suis sous pompe.
Et tu as mis en place la pompe dès que tu en as eu la possibilité ou alors
Alors la pompe, c'est quand ma diabétologue, je suis toujours suivi à Paris et je pense que j'aurais pu l'avoir plus tôt, mais c'était l'époque où ça se développait quand même pas mal et de plus en plus parce qu'il y avait de plus en plus de systèmes qui fonctionnaient bien. Donc ma diabétologue m'a proposé, j'avais un équilibre qui était... qui était correct, mais sans plus. J'étais toujours un peu au-dessus, mes hémoglobines glycées qui étaient toujours autour de 8, et on n'arrivait pas à les faire baisser avec les stylos, avec le système classique. Donc elle m'a dit, bah, on peut essayer de passer à la pompe et de voir comment ça se passera, quoi, si ça évolue dans le bon sens. Et c'est vrai que depuis, ouais, l'équilibre est quand même bien meilleur. Donc, voilà, c'est un confort de vie que je pour lequel enfin voilà, je renoncerais pour rien au monde, quoi.
Ok, donc pas de regret, t'as pas du tout envie de
Absolument.
revenir en arrière.
J'avais beaucoup de réticence parce que l'idée d'être dépendant d'une machine, d'avoir un fil qui pendouille tout le temps, dans lequel on peut se prendre les poignées de porte et tout ça, c'était. Alors, c'est une réalité, hein, ça reste quand même une petite contrainte, mais comparé aux avantages pour l'équilibre, et puis le confort de vie, c'est incomparable. Donc non, je regrette pas du tout.
Bah tu vois, moi je suis toujours aux injections. Donc, des réticences dont tu parles, je vois bien de ce dont tu veux parler. Notamment par rapport au voyage, j'ai déjà entendu que c'était une logistique un peu compliquée pour se faire livrer ce dont tu as besoin quand tu es sous pompe. Par exemple, ça te semblerait compliqué de, tu vois, de voyager, d'être en itinérant avec la pompe?
Alors, bah, ça dépend la durée de ton voyage, en fait. Tu vois, moi, en ce moment-là, je me fais livrer du matériel pour 2 mois. Donc, ça fait une vingtaine de cathéters et de réservoirs. Si effectivement, tu décides à partir pour 6 mois, 1 an, ça, je pense qu'il faut négocier avec ton prestataire pour pouvoir te faire livrer. Et alors ça représente un sacré volume, quoi. Si tu veux partir juste sac au dos, c'est vrai que tu dois emmener ton matériel qui prend un peu de place parce que tout est conditionné dans des trucs emballages plastiques pas très pratiques à ranger. Plus il faut ton insuline et ton système de rechange, c'est-à-dire que si ta pompe ne fonctionne pas, bah, il faut quand même que tu aies un système qui fonctionne avec tes stylos et ton insuline. Donc
Oui.
ouais, pour partir, c'est vrai que c'est peut-être que ça vaut mieux de repartir juste avec les stylos, au moins t'as ta petite poche réfrigérée et puis voilà, ça suffit. On était parti avec mon épouse, on était parti faire un tour du monde. Alors, on devait partir 9 mois, finalement, il y a eu des petits pépins, mais on est parti deux fois 3 mois. À l'époque, je n'avais pas encore la pompe et avec les stylos, ça se passait très bien, quoi.
Ok, tu avais des appréhensions un peu particulières avant de partir voyager, avant de partir en tour du monde, justement?
Pas plus que ça pour le diabète. Alors, il y avait si la contrainte de se dire est-ce que je trouverais toujours de quoi me resucrer ou de quoi voilà avoir parce que bah ouais j'ai toujours des petits sachets de sucre sur moi, mais c'est les sachets de sucre que tu achètes dans le commerce ou que tu récupères quand tu prends un café. Après, quand tu es au fin fond de la Bolivie où c'est pas forcément t'en as pas forcément sous la main, donc ça c'était un peu l'appréhension de se dire comment, si jamais j'ai besoin de me resucrer, est-ce que j'aurai toujours de quoi? Et en fait, ouais, tu trouves, il y a toujours des petits vendeurs qui te vendent du coca, des biscuits, voilà. Mais c'était dans chaque pays, dès que j'arrivais dans un pays, c'était de me dire la première chose, voilà, quels vont être les biscuits qui seront ma référence de sucre pour le voyage, ceux dont je sais qu'ils vont me resucrer correctement. Donc ça, c'était voilà, juste de s'assurer de ça. Après, j'avais les poches réfrigérées. C'était un système qui était pas mal. Il suffisait de les plonger dans l'eau et ça maintenait des petits cristaux qui gonflaient et ça maintenait plus ou moins frais. Voilà.
Ouais, les pochettes frio.
Ouais, voilà,
Ouais,
ça
c'est
m'a.
super ça.
Et voilà, non, il n'y a pas eu trop d'inquiétude sur ça. Enfin, en tout cas, je me souviens pas. La seule contrainte, c'était ouais, de pouvoir se faire approvisionner en insuline. Alors, le cas de figure, c'est pas produit parce que c'est pas présenté parce que finalement, on est rentré en France et puis on est reparti après. Mais l'idée, c'était que ouais, ma mère puisse aller retirer avec mon ordonnance le matériel pour 2 3 mois et nous envoyer ça à une adresse donnée, quoi. Parce que Après, c'est ça, c'est la chance qu'on a en France, c'est que tout est remboursé par la Sécu directement. Quand tu achètes à l'étranger, c'est un autre système et c'est un autre budget, quoi.
Oui, moi j'ai vécu en Asie, de se demander si on va toujours trouver à trop sucré. Pareil, bon, au Myanmar, en partant en rando pendant X jours, t'as pas parlé de fruits, mais en Asie, pour le coup, si certains se posent la question, tu trouves des bananes à tous les coins de rue, même dans la montagne. Voilà, tu vas toujours trouver des fruits. Je pense qu'il n'y a pas trop d'inquiétude à se faire pour ça. Par rapport à l'approvisionnement, mais en fait, je me suis retrouvée au Vietnam quand c'était le début du Covid. Après, du coup, je suis partie à Bali. Donc, du coup, j'avais plus du tout de stock d'insuline aussi. Et en fait, j'ai vachement retardé le moment où j'allais vraiment devoir trouver une solution parce que j'avais peur que ça m'oblige à rentrer, du coup, de plus avoir d'insuline notamment. Et en fait, c'était beaucoup d'inquiétude pour pas grand-chose parce que, en fait, dans les pharmacies, alors, on trouve pas forcément la même, c'était pas la même insuline que ce que j'avais en France. Par exemple, j'étais à la Toujeo en France et j'ai dû repasser sur de la Lantus là-bas. Mais il y aura forcément, je pense, un stylo avec la bonne molécule d'insuline, en tout cas. Dans la plupart des pays, même en fait, pour pouvoir le commander en pharmacie, c'était assez cher. D'ailleurs, on pouvait l'acheter soit à l'unité, soit en boîte, ou alors le faire livrer sur, tu vois, Tokopedia, c'est un peu, on va dire, le Amazon local. Et là, ça coûtait beaucoup moins cher. Et bon, par contre, enfin, il venait de Jakarta, et du coup, c'était pas en transport réfrigéré, donc, tu vois, je les prenais un par un, mais. Enfin, je pense que, en tout cas, voilà, pour partager ce truc-là qui a été un peu une vraie appréhension pour moi, je pense que dans une bonne partie du monde, c'est possible. Et bien sûr, oui, il faut peut-être mettre un petit peu de sa poche, mais de mémoire, c'était à peu près 5 euros par stylo. Donc, bon,
Ça reste honnête,
ça
ouais.
va. Le pire, ça doit être les États-Unis. Et je ne sais pas comment c'est en Australie ou dans d'autres pays anglo-saxons, mais en tout cas, oui, à part aux États-Unis, je pense que ça doit être à peu près corrélé au niveau de vie, j'imagine, du pays, quoi, d'une manière générale.
Non, mais c'est un vrai problème aux États-Unis parce que c'est extrêmement cher. Il y a des, je crois qu'il y a des, du coup, les gens vont s'approvisionner au Canada ou au Mexique où c'est moins cher et ils font passer la frontière au flacon d'insuline pour s'y retrouver, quoi.
Ah oui, ok, j'avais déjà pas mal entendu parler de ce problème, mais je savais pas que du coup il y avait cette solution d'aller s'approvisionner à l'étranger.
En tout cas, pour les frontaliers, quoi. Après, je pense que quand tu es au fin fond des Rocheuses, c'est peut-être pas forcément très pratique d'aller t'approvisionner au Canada, mais non, il y a des, c'est un vrai problème, quoi,
Ouais, je me suis pas mal renseignée et bah, il y a pas mal de diabétiques qui meurent hein, d'être diabétiques aux États-Unis parce qu'ils n'ont pas l'argent pour se fournir, quoi. C'est.
ça, ou qui se rationnent, mais du coup qui sont mal équilibrés, qui développent des pathologies à côté. Non,
Ouais.
c'est vrai que c'est compliqué.
En tout cas, oui, voilà, je pense que c'est l'insuline est à peu près trouvable n'importe où. Bon, peut-être dans certains pays, un peu plus moyennant un budget important que d'autres, mais en tout cas. C'est à peu près partout dans le monde où il y a à peu près 10% des diabétiques qui sont diabétiques de type 1. Et malgré tout, dans les diabétiques de type 2, il y en a aussi certains qui sont sous insuline. Donc je pense que bah, Louis, du coup, me disait quand on a échangé ensemble que lui aussi en Afrique, il arrivait globalement toujours à se fournir aussi. Il disait que simplement sur Haïti, c'était parfois un peu plus compliqué. Alors peut-être dans des zones vraiment très reculées, c'est un peu plus difficile. Mais autrement, voilà, je pense que tout le monde peut se rassurer par rapport au voyage. En tout cas, normalement, il y a pas de problème par rapport à ça, quoi. Alors, du coup, c'est journaliste, Grégory.
Oui, à la radio.
Est-ce que c'est un métier qui te pose un peu des difficultés par rapport au diabète ou est-ce qu'à l'inverse, c'est une typologie de métier qui ne pose pas de complications par rapport à son diabète? Tu vois, par exemple, moi, avant, j'avais un job de bureau qui rendait un peu parfois difficile, tu vois, la gestion des hypos, des hyper, tu vois, de ce que tu te fais à manger, etc. Comment ça se passe du coup pour toi?
Alors, moi, je suis. Y a plusieurs manières d'être journaliste. Moi, je présente les infos sur l'antenne, voilà, dans laquelle je travaille. Et du coup, c'est un job très sédentaire. Donc, j'ai des horaires de bureau et j'ai un rythme un peu de bureau. Alors, l'avantage, c'est que bah, du coup, il n'y a pas de risque de variation trop importante ou de. Je suis sur un reportage, j'ai pas le temps de manger, voilà, donc j'ai des horaires très cadrés. Après, il y a des variations qui sont liées. J'ai découvert ça un peu au stress ou à l'adrénaline, et tout d'un coup, je peux avoir des montées comme ça de glycémie parce qu'un gros stress à l'antenne, un direct qui se passe mal, quelque chose, et hop, la glycémie peut monter très rapidement. Et à l'inverse, moi, je fais tout pour ne pas me retrouver en hypo quand je passe à l'antenne, parce qu'on connaît tous le côté où on perd un peu ses moyens, on n'est plus aussi concentré, et je ne peux pas me permettre d'être dans cet état-là à l'antenne. Donc, c'est une gestion de la glycémie qu'il faut trouver pour ne pas être trop, trop haut et pas être trop bas non plus, pour ne pas risquer de se retrouver un peu défaillant à l'antenne. Quand j'ai été, parce que j'ai fait aussi du reportage sur le terrain, c'était un peu plus compliqué à gérer, parce que pour le coup, tu ne sais jamais à quoi va ressembler ta journée. On te dit, tiens, tu vas aller faire tel reportage, ça peut durer plus longtemps, ça peut se passer sur le temps de midi. Donc là, pour le coup, il faut développer d'autres stratégies pour avoir toujours de quoi manger sur place ou anticiper d'éventuelles hypos pour pouvoir les contenir. Et, là, moi, j'ai trouvé un équilibre qui va bien et j'ai pas trop de soucis. Mais c'est vrai qu'il faut toujours anticiper, et je me contrôle assez régulièrement pour ne pas me retrouver face à une hypo que je ne voudrais pas, ou quelque chose comme ça.
Est-ce que tu as le freestyle libre où tu as ta glycémie en continu et tu as des anticipations sur dans quel sens elle évolue ou pas, où tu te fais des
dextros? Alors j'ai le freestyle libre. Donc, avec ça, je vois les tendances, si c'est plutôt à la hausse, à la baisse. La pompe ne me donne pas d'indication sur la glycémie. En tout cas, c'est pas couplé avec le capteur. Mais après, je peux réguler avec la pompe. Il y a des systèmes où on peut réduire le débit, baisser en 90%, 80% du débit de base si on sait qu'on va être amené à pas se resucrer tout de suite, ou si on a un petit doute sur le fait que la glycémie va baisser ou pas. Donc ça, on peut faire des ajustements avec la pompe, mais sinon le freestyle libre, c'est ça, c'est royal pour se contrôler rapidement et régulièrement, quoi.
Tu parlais aussi des moments où avec le stress, avec l'adrénaline, du coup ta glycémie peut monter, et ça aujourd'hui, est-ce que tu t'essayes de travailler sur ton stress, ou alors tu te fais des injections quand tu vois que ce genre, enfin, ou tu augmentes ton débit quand tu sens que ce genre de moment arrive? Comment tu le gères, ça?
Non, j'agis surtout sur le moment de ce que je mange et à quel moment je mange et en quelle quantité. Le stress, je vais dire en temps normal, si tout se passe bien à l'antenne, j'ai plus vraiment ce stress comme j'avais au début de parler en direct et tout ça. Après, si c'est sur des grosses émissions, quelque chose que je dois préparer, une édition spéciale, quelque chose comme ça, ça, le stress, je vais l'avoir, et je sais que ça va monter, donc je peux intervenir en faisant un débit de base un peu plus élevé, quelque chose comme ça avec la pompe, mais c'est assez rare, quoi. Dans ce que je fais, je présente les journaux tous les matins, c'est un exercice que maintenant que je connais, donc j'ai plus trop ce stress, cette appréhension qui peut faire monter la glycémie, quoi.
Ok, c'est assez marquant. Et aussi dans le sport, je ne sais pas si c'est des choses que tu as déjà vécues, mais moi, quand j'étais plus jeune, je faisais du tennis, et ça, je l'ai compris aussi bien plus tard, mais c'est vrai que c'est un sport assez difficile à gérer avec le diabète de type 1, parce que notamment quand tu es en match, suivant ton tempérament aussi, tu as pas mal de montées d'adrénaline, et du coup beaucoup de variations de glycémie. Et tu me disais tout à l'heure que tu faisais du vélo. Est-ce que tu as essayé plusieurs sports et finalement pour trouver que le vélo, ça te convenait bien? Est-ce que c'est un peu... Parce que c'est un très bon sport par rapport au diabète, justement.
Oui. Alors bon, le vélo, c'est surtout pour me déplacer. J'ai pas un vélo de course et j'avale pas des kilomètres. C'est surtout, j'essaie de faire le plus de trajets possible à vélo en ville. Mais c'est vrai que j'en fais pas... je vais pas partir pendant 2 heures rouler. Mais je trouve que c'est un moyen de déplacement qui est pas mal, parce que finalement, si on en fait à un rythme voilà, tout doux, ça ne va pas faire baisser tant que ça la glycémie. Et, mais si on est un peu élevé, ça permet de quand même d'atténuer. Enfin, c'est un peu paradoxal, mais j'ai l'impression que je n'ai pas besoin de me resucrer forcément quand je fais du vélo. Mais quand je suis un peu haut, j'ai l'impression que ça amorce quand même une baisse de glycémie. Alors, je ne saurais pas du tout, ce n'est pas du tout scientifique ce que je raconte, mais voilà, psychologiquement, en tout cas, j'ai l'impression d'équilibrer un peu mieux avec le vélo. Mmh. Après, en termes de sport, ouais, j'ai déjà remarqué que, par exemple, je fais du squash, mais vraiment pour le loisir, et j'ai déjà remarqué que c'est un sport qui est très... très intense tout de suite, ça a plutôt tendance à faire monter la glycémie ou en tout cas à la maintenir assez élevée. Et je me suis déjà retrouvé après une heure de squash à être à plus de 2 grammes alors que j'étais parti de plus bas et à ne pas comprendre pourquoi tout d'un coup j'ai tant de sucre alors que j'avais l'impression de m'être défoulé à fond. Et alors qu'une activité un peu moins intense comme un footing ou quelque chose comme ça pourra plus faire chuter la glycémie. Donc ça, c'est des ajustements aussi à trouver. Mais comme tu dis, c'est en fonction de quel tempérament on a aussi vis-à-vis du match, dans quel état d'esprit on pratique le sport.
Oui.
C'est ça qui est intéressant parce que je trouve que il n'y a pas de règles, même sur son propre corps. Moi, il y a des fois où je pars faire un footing et je reviens et je suis à presque 3 grammes, et puis d'autres fois où je suis obligé d'arrêter en cours de footing parce que il faut que je me resucre. Et voilà, ça dépend de tellement de choses que voilà, c'est très empirique.
Oui, c'est vrai que c'est assez hallucinant de se dire que pour une activité qui a l'air d'être exactement la même vue de l'extérieur, finalement, ça a un effet complètement différent. Moi, j'ai remarqué que même si, par exemple, si je vais marcher ou si je vais faire du sport, l'état dans lequel je me sens et est-ce que je suis en train de me... si je suis dans le moment ou si je suis encore en train de penser à ce qui me trotte dans la tête, ça va tout changer vraiment dans l'évolution de la glycémie. Et du coup, ce que ça m'a aussi forcé à apprendre à faire, c'est à me chasser un peu parfois les pensées qui t'énervent, qui t'angoissent, les pensées un peu parasites, de moins t'en vouloir, de moins te... Enfin voilà, vraiment tout ce qui est parasite, donc y compris, tu vois, quand t'as fait une erreur, tu t'es un peu trompé sur ton injection, t'as mal calculé ci ou ça, t'es énervé contre toi. Bon, de te détendre, en fait, ça fait que améliorer les choses. Et c'est vrai que c'est un impact hyper important. Donc, tu as en tout cas un des points positifs, parce que je pense qu'il y a aussi des points positifs à être diabétique, c'est que voilà, ça te force à avoir une certaine aussi discipline par rapport à ton propre comportement et qui, tu vois, à la fin...
Ouais, et puis à s'écouter, quoi, à savoir trouver ses limites et à dire, là, je peux... faut que je m'arrête, je peux pas continuer. Moi, je sais que j'ai tendance à être un peu dans cette idée de dire quoi qu'il arrive, je continue et c'est pas une hypo qui va m'arrêter. Mais c'est vrai que des fois, faut juste dire stop. Je prends 5 minutes, 10 minutes de pause, le temps que ça reparte. Et puis et c'est vrai que ça force à mieux se connaître et à mieux s'écouter. Et c'est pas plus mal quand même.
Et alors, est-ce que ça t'est déjà arrivé, du coup, d'aller, de ne pas vouloir t'arrêter au point de, tu vois, faire une hypo qui te fait tomber dans les pommes, par exemple ?
Alors, non, ça fait longtemps que je touche du bois, s'il y en a. Ça fait longtemps que je n'en ai pas eu. Ça fait, la dernière, elle remonte à il y a 11 ans, je crois. Et du coup, non, maintenant, je fais vachement gaffe. Alors, j'ai la chance de pouvoir... sentir vraiment quand ça va pas et à différents niveaux. Enfin voilà, le petit état de faiblesse qui se dit, qui alerte en disant alors là, c'est en train de descendre, il faut que je me resucre, jusqu'à les éblouissements où là, je sens que c'est vraiment le compte à rebours jusqu'à l'évanouissement. Donc là, je m'arrête tout de suite. Mais donc voilà, j'ai pas, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de malaise au point de tomber, d'aller à l'hôpital. Et bon, c'est pas plus mal. Et puis maintenant, voilà, j'ai des enfants et j'ai pas envie de leur infliger ça. Donc j'essaie de prendre des précautions avant, quand même.
Ok. Ça m'est jamais arrivé aussi de pousser voilà, jusqu'au point où après je tombe dans les pommes, etc. Et du coup, est-ce que toi, c'est vraiment cette dernière fois où ça t'est arrivé? Est-ce que tu as des signaux que tu avais eus cette fois-là, que maintenant tu détectes, c'est vraiment cette fois-là qui t'a marqué, qui t'a fait te dire, bon, non, là, maintenant, je connais ma limite?
Ouais, c'est un peu comme si ouais, tu découvres des nouvelles alertes, quoi. Les deux dernières fois où ça m'est arrivé, c'était après une soirée. J'avais le sentiment de fatigue, en même temps le sentiment un peu gueule de bois, et qui a couvert, je pense, le ressenti habituel de tiens, je me sens un peu faible, quoi. Et je pense à trop mettre ça sur le compte de bon, bah, c'est un lendemain de soirée, je vais faire un petit somme. Bah, j'ai pas senti venir l'hypo, quoi. Et après, voilà, c'était une époque où il fallait encore se piquer le doigt pour contrôler la glycémie. Il fallait, je pense que maintenant, avec un coup de scan sur le freestyle, j'aurais pas ce problème-là non plus, quoi. C'est facile de vérifier, de dire oula, attends, ouais, 0,50, là, je vais me resucrer, et puis voilà, c'est évité, quoi. Et c'est vrai que toutes les fois où ça s'est produit, bah, j'avais pas de quoi me contrôler. Je pensais que j'étais fatigué, et voilà, c'était pas ça. Enfin, c'était pas que ça.
Ouais, c'est vrai que l'alcool et la gueule de bois, ça perturbe un peu tous les signaux, d'hypo, ouais. Ok. Et alors, du coup, donc toi, tu connais Louis depuis que vous êtes assez jeune, c'est ça?
Ouais, on se connaît depuis, bah, je sais pas, j'étais au lycée à Bourg-en-Bresse. Ouais, on a découvert que tous les deux, on était diabétiques, mais c'était un peu par hasard, quoi. Voilà, c'est pas ça qui nous a fait nous connaître. Et donc, du coup, on en a un peu parlé, mais pas plus que ça non plus. Enfin, voilà, on sait qu'on a ça en commun, mais après, on a d'autres, des copains en commun et tout ça. Donc, quand on se voit, c'est pas de ça dont on parle en premier non plus, quand même.
Et parce que tu vois, moi étant plus jeune, je connaissais personne qui était diabétique. Et tu vois, j'ai toujours un peu imaginé ce truc où tu vois, j'aurais eu une copine ou un pote diabétique pour. Parce que mine de rien, bon, t'as les médecins, mais qui sont pas non plus à ta place. T'as les personnes qui sont très proches de toi, qui connaissent aussi très bien ton diabète, mais c'est jamais toi. Et du coup, tu vois, il y a plein de fois où tu sais pas si tu prends les bonnes décisions, tu sais pas si te, je sais pas si te manque des infos, s'il y a des choses que tu sais pas qui pourraient te permettre de, tu vois, x ou y. Et du coup, ouais, moi j'avais un peu cette impression que si je connaissais quelqu'un comme ça de mon âge, que j'aurais passé des heures à tout décortiquer, à voir comment il ou elle, tu vois, faisait et tout.
Mais après, bah, moi j'avoue que comme je suis diabétique depuis le début quasiment, j'ai toujours vécu avec ça et du coup je l'ai toujours intégré à ma vie. Donc les questions que j'ai pu avoir au début, bah, je les ai posées à mes parents ou aux médecins, et j'ai jamais eu vraiment de gros doutes. Alors si, sur l'équilibre, pour savoir voilà quelle dose, mais finalement, non, ouais, j'ai jamais eu. Enfin, j'ai l'impression que ça m'accompagne. Voilà, ça fait partie de ma vie. Et même, enfin, ça avait choqué une fois à l'hôpital une infirmière qui me faisait un questionnaire. Et moi, je considère pas que je suis malade, en fait. J'ai pas l'impression. Enfin, je trouve que le terme maladie, ça fait vraiment, on est atteint de quelque chose, on est un peu, voilà, affaibli.
Ouais.
Alors oui, c'est une maladie, mais moi, je considère que ça me gêne tellement pas dans ma vie de tous les jours, ou en tout cas, je l'intègre tellement naturellement que finalement, j'ai pas l'impression d'être amoindri, et je vois pas ça comme une maladie. Alors en fait, si, c'en est une, mais. Mais voilà, c'est pas une manière, c'est pas un déni, hein, parce que je l'accepte très bien, le fait d'être diabétique, mais je veux pas que ça en fasse, je veux pas que ça soit une faiblesse, quoi. Je veux pas que ce soit, et je sais que pendant toute mon adolescence, j'ai pas voulu que ça soit un prétexte non plus à pas pouvoir faire des choses, ou je sais que dans les cours de sport, les profs, ils savaient que j'étais diabétique, ils disaient ah, vas-y mollo, t'es pas obligé de faire autant que les autres et tout, et je me disais mais il y a pas de raison que moi, si j'ai envie d'aller plus loin, d'en faire autant, je n'ai pas envie que ça soit un prétexte, quoi.
Oui, tu te gères.
J'interromps l'épisode quelques secondes pour vous dire que le podcast que vous êtes en train d'écouter est maintenant sur Tipeee. une plateforme sur laquelle vous pouvez soutenir vos créateurs de contenu préférés au moyen de dons ponctuels ou réguliers d'un euro minimum. Mais un don sur Tipeee, c'est beaucoup plus qu'une histoire d'argent. Car quand on diffuse un podcast, on a en fait assez peu de moyens de savoir qui vous êtes, vous, les auditeurs. Ce qui vous plaît, ce qui vous intéresse. Lorsque vous faites un don sur Tipeee, vous pouvez y joindre un commentaire. Alors, si l'écoute de ces échanges avec les invités vous plaît, vous inspire ou vous aide, s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde en particulier, des invités que vous voudriez entendre, ou si vous voulez simplement m'encourager à continuer et voir toujours plus de nouveaux épisodes arriver, alors c'est une bonne façon de me le faire savoir. Vous pouvez dès maintenant taper Tipeee dans votre moteur de recherche, T-I-P, puis trois fois la lettre E. Ensuite, rendez-vous sur la page Happy Diabetes et laissez-vous guider. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Je vous remercie infiniment pour votre contribution et je vous laisse reprendre l'épisode là où vous l'avez laissé.
Tu sais comment te gérer, quoi.
Ouais, c'est ça. Et puis effectivement, enfin après dans la vie, les gens ils vont pas toujours te trouver des excuses, quoi. En plus, enfin c'est une maladie qui se voit pas, quoi. Donc d'emblée, à moins de dire à tout le monde bonjour, je suis diabétique, on va te prendre tel que tu es et tel que pour un métier, c'est on fait ce que on te demande de faire ce que tu sais faire et on va pas dire ah oui mais le pauvre il peut pas. Il ne peut pas parce qu'il est diabétique. Quoi. Donc, moi, en tout cas, je n'ai jamais voulu me servir de ça. Et pour rejoindre ce que tu disais, d'avoir quelqu'un qui a ton âge, qui partage la même chose, j'ai toujours eu un peu des réticences parce que, par exemple, à l'hôpital, quand tu fais des ateliers autour du diabète, tu rencontres plein de gens et tout le monde a son rapport très personnel à la maladie. Et ce n'est pas toujours le même rapport que toi. Et du coup, il y a une espèce de petite gêne des fois parce que t'en as qui vont en faire des caisses en disant là là c'est terrible. Moi j'en ai déjà entendu qui disaient qu'ils allaient demander la reconnaissance du handicap parce qu'ils avaient un diabète. Alors comme ça il n'y avait pas de différence apparente avec moi, alors peut-être qu'effectivement dans leur quotidien c'était très handicapant, mais il y en a qui vont dramatiser, il y en a au contraire qui n'en ont rien à faire. Je me rappelle avoir rencontré une copine de mon épouse qui, pendant des années, c'est pas du tout, faisait ses injections une fois sur deux, se prenait pas en charge. Et du coup, tu te dis, t'es sûr, t'es en train de mettre ta vie en danger quand même. Donc, je trouve que c'est un rapport tellement, tellement intime, tellement personnel à la maladie que c'est compliqué de le partager parce que ton comportement ne correspond pas forcément au comportement des autres. Quoi. Je sais pas si c'est très clair, mais...
Oui, je pense que je vois ce que tu veux dire. En tout cas, il ne faut pas s'attendre à peut-être rencontrer quelqu'un qui va vivre la chose exactement comme toi et avec qui tu pourras partager complètement à 100%.
Ouais, c'est ça.
Mais moi, tu vois, par exemple, au moment où j'ai commencé à pas mal voyager, partir en sac à dos, etc., tu vois, d'avoir quelqu'un, tu vois, un peu une sorte de mentor, tu vois, qui est un peu autre chose qu'un médecin, parce que c'est quelqu'un qui a, tu vois, vécu le truc. Dès qu'on fait quelque chose qui nous sort un peu de notre zone de confort, on aimerait, tu vois, avoir quelqu'un pour nous dire, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Donc, ça, c'est valable pour tout.
C'est un peu le rôle de tes podcasts, hein, finalement. C'est de, voilà... interroge les gens qui font des choses et ceux qui écouteront, ils pourront trouver les expériences qui leur manquent ou les témoignages dont ils ont besoin. Donc c'est...
Oui, puis tu vois, je pense que des témoignages de personnes qui ont fait plein de choses super en étant diabétique, il y en a et il y en a de plus en plus et ça, c'est super. Mais c'est aussi pour ça que c'est important pour moi qu'on prenne le temps de discuter. C'est pour ne pas voir que ce qui a été fait et ce qui a été réussi, mais aussi un petit peu, tu vois, les étapes intermédiaires, de te faire te dire qu'il y a eu aussi des difficultés sur le chemin, qu'il y a eu aussi des ratés.
Ouais, tout à fait.
Mais alors justement, en parlant de ratés et de difficultés, toi, j'ai l'impression que ça s'est... je sens pas de lourdeur que tu partages là par rapport au diabète. Globalement, tu l'as à peu près toujours bien vécu, puisque aussi ça a été là depuis le tout début, où il y a quand même eu des moments où c'était...
Non, j'ai jamais eu trop de lassitude. Après, c'est aussi dans la mesure où... alors, je pense que c'est peut-être le diabète qui a fait ça aussi... dans mon caractère, le côté un peu il faut se responsabiliser assez vite et assez tôt. Et du coup, j'avais entendu des témoignages d'ados qui, à l'adolescence, avaient tout rejeté, décidé de plus soigner et tout ça. Et moi, je me disais, mais en même temps, c'est à ta vie que tu touches, quoi. Et si c'est pour le payer dans 20 ans ou 30 ans parce que tu auras des problèmes d'yeux, de reins, de circulation, de je ne sais pas quoi, c'est un peu une connerie de s'en prendre à son corps. Voilà. Bon, c'est ma manière de voir, et c'est peut-être ça qui m'a aussi, voilà, empêché de faire n'importe quoi et de tout rejeter. Mais oui, il y a des fois où j'en avais marre de me piquer. Avant d'avoir la pompe, je me faisais, je sais pas, jusqu'à 8 injections par jour, parce qu'il y avait des petits raccords, et voilà. Et ça, au bout d'un moment, c'est énervant parce qu'il y a des petites raideurs sur les lieux d'injection. Tu as l'impression d'être piqué en permanence. Mais finalement, c'était pas. Voilà, ça n'a pas été si dramatique que ça. Et puis voilà, j'ai eu la pompe après qui a permis de régler le problème. Et puis il y a eu vraiment d'énormes progrès en tout ce qui est technologie. Et ça a permis à chaque fois de résoudre les problématiques de c'est trop encombrant, c'est trop fastidieux de faire les mélanges avec les seringues. Et hop, il y a le stylo qui est là. Après, il y en a marre de se piquer, bah, il y a la pompe qui est disponible. Il y en a marre de se piquer le bout du doigt, bah, il y a les capteurs. Donc finalement, on a cette chance, enfin voilà, en 30 ans, il y a eu d'énormes évolutions. Et aujourd'hui, bah, c'est tout miniature. Moi, je me rappelle le premier glucomètre que j'avais, c'était la taille je sais pas, d'un livre, quoi, quasiment, avec une bandelette qu'il fallait rincer la goutte de sang, attendre 1 minute que ça donne un résultat. Enfin bon, c'était toute une. Toute une histoire. Et après, les petites fioles qu'il fallait mélanger dans la enfin voilà mélanger l'insuline dans la seringue. Et ben voilà, et finalement aujourd'hui c'est quand même nettement plus simple. Voilà, alors bon, peut-être qu'après, à terme, on arrivera à un traitement carrément, ou en tout cas quelque chose de plus automatisé, comme le pancréas artificiel, et ça sera encore une autre étape, quoi. Mais ouais, on a cette chance que ce soit une maladie, malheureusement, qui touche beaucoup de gens et du coup qui intéresse les labos.
Oui, donc c'est surtout toi, les évolutions technologiques, je dirais, les évolutions en termes d'outillage, c'est surtout pour toi ce qui a changé sur là ces 30 et quelques dernières années.
Ouais, vraiment. Parce que, bah, ouais, c'est ça, vraiment, au début, et encore, je pense que moi, c'était dans les années 80, ça devait être déjà révolutionnaire ce qu'on avait comme matériel par rapport à ceux qui étaient malades 30 ans auparavant. Mais du coup, ouais, toutes les différentes insulines qui permettent de coller au mieux, au rythme de la vie, mais assez bien que je me demande comment je pouvais être à peu près équilibré quand j'étais à l'école primaire ou au collège, où je me faisais juste 2 injections par jour, une le matin, une le soir, et pas de contrôle à midi, rien. Et ça me paraît tellement fou aujourd'hui de me dire, c'était le grand vide, on ne savait pas ce qui se passait pendant la journée. Moi, je me rappelle, en primaire, je mangeais chez une nounou et je faisais juste une bandelette d'urine à midi pour voir si ça allait à peu près, s'il n'y avait pas trop de sucre dans le sang. Mais si j'en avais, bah on faisait rien, il n'y avait pas d'injection, il n'y avait rien. Donc c'est assez fou de se dire, bon, bah, j'ai pas eu plus de malaise que ça, j'ai pas eu plus de coma, d'hyperglycémie que ça. Bon, après, je pense que l'hémoglobine glyquée n'était pas du tout, était pas aussi satisfaisante que ce que j'ai aujourd'hui, peut-être, mais au moins ça passait, quoi. Mais aujourd'hui, voilà, on affine quand même beaucoup plus, et ça permet de réduire, voilà, tous les risques autour, quoi. Donc c'est.
Oui, puis ça permet de gagner beaucoup en liberté aussi. Si les injections étaient un peu plus rigides et qu'il y avait moins de contrôle, tu avais moins de liberté sur ce que tu mangeais, sur quand est-ce que tu faisais du sport, à quelle
Ouais.
intensité, etc.
Oui, certainement.
Certainement, ouais.
J'ai l'impression aussi qu'il y a pas mal évolué par rapport au sport, c'est que j'imagine que tu as déjà entendu que si on est au-dessus de 2,50 g, il vaut mieux pas commencer une activité, ouais. Pendant longtemps, ça m'a hyper contrarié, c'est pas logique quelque part, et on voit bien que parfois tu le fais quand même, et en fait ça fonctionne, ça baisse, parfois tu le fais quand même, et en fait non, ça augmente complètement, et tu vois, ça je pense qu'on affine un peu aussi la compréhension de tu vois, des mécanismes qui peuvent se produire aussi, et du coup je pense qu'aussi l'enseignement qu'ont les endocrinologues, et du coup la façon dont ils nous guident, je pense, a dû évoluer aussi.
Oui, certainement, ouais, carrément. Mais le discours a beaucoup évolué, ouais, sur la liberté de faire les choses et les interdits. Moi, je me rappelle, il y avait une association de diabétiques dans l'Ain, là où j'étais. Et selon les témoignages, il y avait un petit groupe d'enfants. Et selon les témoignages, bah, ce n'était pas du tout les mêmes échos selon les diabétologues ou selon quelle prise en charge avait été faite. Et donc, il y en a qui disaient, oh là là, on ne peut pas manger de sucre, rien du tout. Moi, je donne des bonbons sans sucre à ma fille quand elle va aux anniversaires pour qu'elle puisse quand même partager avec les autres. Et moi, j'hallucinais parce que ce n'était pas du tout ça que j'avais vécu. Et je remarque qu'aujourd'hui encore, à l'hôpital, selon les générations de médecins ou d'infirmiers, ce n'est pas tout à fait le même discours qu'on te donne, quoi. Moi, je me rappelle avoir fait une hospitalisation de jour et donc... Non, c'était quand on m'avait installé la pompe. J'étais resté 3 jours à l'hôpital parce qu'il fallait faire un suivi la nuit et tout ça. Et le matin, j'avais eu le malheur de demander du sucre pour mon café. Et l'infirmier, il m'avait dit « du sucre, mais non, c'est du poison !» Et je dis « non, moi, je prends du sucre tous les matins, sous une forme ou sous une autre. Et c'est pas, voilà, c'est pas plus poison que ça. » Mais à des diabétiques, on disait « du sucre, c'est du poison !» Oui, ça, c'était ce qu'on disait il y a peut-être 40 ans, mais on en est revenu, quoi. Et maintenant, je trouve que dans le discours, là où je suis suivi, en tout cas, j'ai cette chance d'avoir un discours qui est vachement responsabilisant, dans le sens de dire « faut manger ce que vous voulez, il faut vous faire plaisir ». Et le diabète, c'est une course de fond, c'est toute la vie. Donc, si en plus, on se met des contraintes et qu'on n'a pas le moral parce qu'on est privé de ça ou de ça, ça ne va pas le faire, quoi. Donc, il faut manger, simplement. Observons les effets de tel et tel aliment et voyons ensemble comment faire pour, si on craque pour un dessert, faire plus d'insuline ou telle autre chose, quoi. Et il y a des ateliers comme ça sur mieux comprendre les effets, les indices glycémiques, mieux comprendre l'effet des aliments sur la glycémie. Je trouve ça passionnant, quoi. Parce que déjà pour sa culture personnelle, quoi, et puis ça explique beaucoup de choses aussi sur les glycémies qui partent dans les tours alors qu'on a l'impression d'avoir rien mangé. Donc non, c'est là-dessus il y a une vraie il y a eu des vrais progrès de pédagogie, d'explication. Pour ne pas dire c'est juste l'insuline et le sucre, mais qu'il y a tout le reste autour, quoi. L'effet du gras sur les aliments, la composition des repas. Donc c'est chouette.
Oui, puis je pense aussi de placer l'équilibre glycémique dans un tout, en fait, parce que quelque part, si on est très équilibré, mais que par ailleurs, on est très malheureux, on est très stressé, pour éviter d'avoir des variations, mais on ne fait jamais de sport, par exemple, c'est pas non plus forcément mieux. C'est à la fois l'expérience et puis aussi la science qui évolue beaucoup de compréhension de l'immunité globale, en fait, du fonctionnement de tout notre système immunitaire et du diabète qui est un petit peu au milieu de tout ça, mais qui est un élément parmi d'autres. Étant donné toutes les évolutions qu'il y a eu en 10, 20, 30 ans, on imagine tous le moment où on aura un petit pancréas artificiel qui fonctionnera tout seul et qui ne prendra même plus compte du tout qu'on est diabétique. Mais...
Ouais, moi, ça me... c'est pas que ça m'inquiète, mais je me dis, est-ce que je serais capable, après, pendant ça fait 36 ans que j'ai la main sur mon équilibre, mes injections et tout ça, est-ce que je serais capable de lâcher prise et de dire... Allez, c'est plus moi qui fais. Imaginons qu'il y ait une pompe qui envoie les doses d'insuline toute seule. Faire confiance à la machine. J'avais déjà cette appréhension pour la pompe. Et puis, finalement, je me suis rendu compte que j'avais la main sur la pompe et que ce n'était pas la pompe qui décidait à ma place. Mais j'avoue que le pancréas artificiel, c'est l'étape supplémentaire de se dire Ouais, ils vont communiquer dans mon dos le capteur et la pompe et est-ce qu'ils vont prendre les bonnes décisions? Alors, évidemment, on a toujours on peut toujours intervenir, mais je trouve que c'est voilà, un lâcher-prise supplémentaire. Je ne sais pas encore si je suis prêt à le faire, quoi. Mais bon, c'est l'évolution, c'est ça, hein.
Oui, mais c'est vrai que ça pose pas mal de questions de si on veut vraiment aller très très loin dans un scénario catastrophe, ça veut aussi dire que quelqu'un qui est capable de pirater le programme, qui commande bah, la pompe, le pouvoir de faire plein de choses qu'on voudrait pas trop voir se produire. Ouais, c'est sûr. Et puis, nous, tant qu'on a un certain contrôle, on est capable de savoir si, voilà, par exemple, on va faire du sport, bah, comme je disais, tu vois, tu passes un peu de tes doses en anticipant. Bah, si c'est une machine, comment est-ce qu'on lui dit? Est-ce qu'on lui dit? Enfin, oui, je suis d'accord avec toi. Finalement, c'est un peu comme si quelque part, on se passerait bien de devoir le faire, mais aussi, maintenant qu'on a la main dessus, c'est difficile de lâcher complètement. Je suis d'accord. Ben écoute, j'aurais peut-être quelques dernières questions. Comment ça t'a changé par rapport à si tu n'avais pas été diabétique? Tu penses que tu aurais été quelle version de toi?
Je pense que ça m'a apporté la responsabilisation, c'est-à-dire très tôt, j'ai été amené à prendre en compte quels étaient les résultats des glycémies, savoir quelle était l'incidence sur moi, sur mon corps. Je me souviens que la première fois où j'ai appris à faire les injections, c'était parce que je devais partir en classe de neige et c'était la condition pour pouvoir partir en classe de neige, c'est que je me fasse moi-même les injections. Et donc, j'avais, je sais pas, j'avais 8-9 ans et donc, il y avait une infirmière qui était sur place à la classe de neige, mais qui n'avait pas le droit de faire les injections. Et parce que c'était, je sais pas, un acte médical, il fallait que ce soit un médecin. Donc, elle pouvait superviser ce que je faisais, mais il fallait que ce soit moi qui les fasse. Et du coup, voilà, ça a été un peu le plongeon dans le grand bain quand j'ai réussi à me faire ma première injection et puis après la deuxième. Et voilà, c'était l'objectif pour pouvoir partir en classe de neige. Donc ouais, je dirais que ça m'a amené à prendre conscience que tout ce qu'on fait, enfin voilà, tout ce qu'on mange, comment on se comporte, ça peut avoir une incidence sur la glycémie. Enfin voilà, c'est la responsabilisation, je pense que c'est le mot de se dire je prends soin de moi parce que je suis malade et pour pas que ça dégénère parce que c'est une maladie qui va m'accompagner toute la vie. Et là, alors après, le corollaire, c'est aussi la... un peu la patience, c'est accepter que ça marche pas tout le temps du premier coup, accepter qu'il y ait des ratés, et puis être content quand on réussit quelque chose, qu'on a trouvé la bonne dose d'insuline à tel moment, qu'on a réussi à faire une soirée pizza sans être à 3,50 g le lendemain matin, enfin voilà, ce genre de petites victoires, quoi. Et qu'est-ce que ça peut m'avoir apporté d'autre? Non, y a aussi cette histoire, mais ça, je pense que c'est mon tempérament, mon personnel, mais vraiment l'idée de se dire, c'est pas un moins, c'est un plus, cette maladie. Donc, je vis ma vie normale, j'ai ça en plus. Alors ça peut poser des problèmes, ça peut handicaper, certainement quand je serai plus vieux ça m'handicapera pas, peut-être plus, je sais pas, mais en tout cas je vais tout faire pour que ça me gêne pas dans mon quotidien et ça me gêne pas dans ce que j'ai envie de faire de ma vie. Et je crois que j'ai jamais eu de contraintes liées au diabète. Alors après, est-ce que c'est parce que j'avais intégré que je pourrais pas de toute façon être pilote de chasse, que je pourrais pas être chauffeur routier, que je pourrais pas conduire des bus, voilà, mais j'en ai jamais ressenti le besoin non plus, donc ça tombait très bien. La seule frustration que j'ai eue à cause du diabète, c'est quand j'ai passé le permis et qu'on m'a dit c'est temporaire, c'est pour 5 ans et tous les 5 ans il faudra au mieux repasser une visite médicale pour s'assurer que voilà, vous êtes bien équilibré, que vous avez conscience des risques, voilà. Jusqu'au jour où il y a 10 ans on m'a dit très bien, permis permanent, et du coup j'ai plus besoin de repasser de visite médicale. Mais alors je ne sais pas si je suis passé entre les mailles du filet, je ne veux pas le dire trop fort parce que que les services de préfecture me rattrapent pas. Mais j'avais trouvé ça assez injuste, en fait, parce que déjà qu'on est suivi voilà, par les diabétologues, voilà, qui savent ce qu'ils font, et d'être obligé de passer devant un conseil de médecins qui connaissent, enfin voilà, qui s'y connaissent parce que c'est des médecins, mais qui me suivent pas au quotidien, et que juste sur la foi de mon carnet de glycémie, ils me disent si oui ou non je peux avoir mon permis pour 2, 3 ou 5 ans. Je trouvais ça assez injuste, quoi, de passer la visite à côté de ceux qui s'étaient fait retirer le permis parce qu'ils conduisaient ivres, ou parce que voilà, j'ai trouvé que c'était pas très cool, quoi. Mais voilà, c'est le seul point où j'ai trouvé que c'était assez injuste, mais pour tout le reste ça va, je le vis bien.
C'est vrai que oui, je te rejoins aussi sur le côté injuste, et puis aussi le côté, on est en effet, on est obligé d'être assez responsable, c'est vrai, quand on est diabétique de type 1, et du coup, je pense qu'on est aussi capable de se dire qu'on ne va pas conduire si on n'est pas capable de conduire un jour ou l'autre, quoi. Donc, ouais. Je pense qu'on n'a pas besoin, en effet, de voir une équipe de médecins pour nous dire ça. Je pense qu'on est assez conscient aussi de la valeur de la santé, et de faire attention pour soi et pour les autres, donc oui. Pour conclure, et ça va peut-être un petit peu rejoindre ce que tu viens de dire, est-ce que tu as une sorte de leitmotiv, de mantra dans les moments difficiles, et que tu pourrais partager avec ceux qui vont nous écouter et qui vont peut-être vivre des moments un peu difficiles du diabète ?
C'est marrant ça, je ne m'étais jamais posé la question comme ça. J'aurais tendance à dire que de toute façon, il faut vivre avec, parce qu'on n'a pas le choix. Donc, moi, je pars du principe que si je n'ai pas le choix, c'est soit je m'adapte et je vis au mieux la situation, soit de toute façon, je vais la subir, et je vais la subir longtemps parce que ça va durer toute la vie. Donc, autant que ça se passe bien, et voilà, et faire des petits arrangements, des petits compromis pour que tout le monde y trouve son compte. Donc j'aurais tendance à dire que ouais, il faut prendre le... Voilà, s'approprier la maladie. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de maladies comme ça qu'on peut s'approprier parce que c'est un traitement quotidien et qu'on a vraiment une emprise dessus. C'est-à-dire que chaque jour, on décide des doses qu'on s'injecte, de ce qu'on mange ou ce qu'on ne mange pas, de l'activité qu'on fait ou qu'on ne fait pas. Et il y a plein d'autres maladies beaucoup plus contraignantes parce que c'est un traitement que des médecins ont déterminé avec une quantité précise, à un horaire précis. Et là, vraiment, c'est une maladie qui est assez malléable, je dirais, parce qu'on peut... Alors, soit c'est notre vie qui s'adapte à elle, soit moi, j'ai envie de dire qu'on adapte à notre vie. Peu importe, en tout cas, on arrive à faire sa vie avec cette maladie. Et oui, il y a des contraintes matérielles, il y a des contraintes... morale, alimentaire, mais rien d'insurmontable, et je pense que si on, voilà, quoi qu'on ait envie de faire, on peut y arriver même en étant diabétique.
Oui, c'est vrai que c'est un peu le revers de la médaille de la liberté de faire ce qu'on veut nous donne aussi la responsabilité de bien gérer, et quand c'est entre guillemets mal géré, c'est notre faute, mais bon, ouais. Moi je trouve ça super de porter la responsabilité. Parce que c'est ça la liberté, quelque part, par rapport à d'autres maladies.
Oui, c'est ça. Et alors, c'est vrai qu'il y a un petit côté scolaire quand on fait une visite médicale où on n'a pas un très bon score d'hémoglobine glycée, quand voilà, il faut dire « Ah bah oui, c'est parce que j'ai fait ça. » Mais en tout cas, on rend des comptes. Le médecin, il est là pour superviser, mais c'est à soi qu'on rend des comptes, quoi. Et effectivement, je pense que pour bien vivre son diabète, il faut avoir une bonne relation avec soi-même pour accepter de dire « Bon, là, j'ai fait vraiment n'importe quoi pendant ces derniers mois, mais je redresse la barre. » Mais c'est un... Ouais, je pense que quand on est sportif, il y a un côté, on se met le défi de toujours faire mieux, de toujours avoir un meilleur score, et ça fait avancer, quoi.
Oui, puis un côté aussi hyper sympa qui est que quand on place les efforts au bon endroit, les résultats arrivent tout de suite, quoi. Je sais pas s'il y a d'autres choses que tu veux partager,
En tant que papa, parce que maintenant je suis papa, il y avait ce doute et cette crainte de transmettre le diabète à mes enfants. Alors pour l'instant, il n'y en a aucun qui est diabétique et c'est tant mieux. On avait participé à une étude pour ma fille. J'ai trois enfants et donc celle du milieu. On avait fait une étude parce que les médecins étaient en train de faire une étude d'abord en France et puis maintenant c'est à l'échelle européenne pour voir justement, tu parlais de microbiote, quelles étaient l'incidence éventuelle du microbiote sur le déclenchement du diabète et pour voir à quel moment l'organisme tout d'un coup se vrille et se retourne contre lui-même. Et donc c'était intéressant de participer à cette étude pour aider la recherche. Après, c'est une étude qui est sur des années et des années, donc on n'a pas vraiment de résultats encore. Mais voilà, il y a toute cette prise en compte aussi de la transmission du diabète et comment les enfants de diabétiques sont suivis pour appréhender au mieux que si jamais le diabète est amené à se déclencher. Prendre en charge le plus tôt possible. Alors, ça réduira pas le diabète, ça va pas l'empêcher, mais au moins d'assurer le meilleur suivi et la meilleure transition avec le traitement, quoi. Après, voilà, je vis mon diabète de manière assez sereine, donc je me dis je pourrais aussi les épauler si jamais ils étaient amenés à déclencher un diabète. Mais bon, c'est aussi quelque chose de, comme je disais, très personnel et chacun a son rapport à la maladie. Et c'est peut-être aussi, quand tu as un parent diabétique, tu n'as pas envie de faire la même chose, tu n'as pas envie d'être pareil, tu n'as pas envie de le gérer de la même manière. Donc voilà, tant que le cas de figure ne se présente pas, je suis très content.
Et du coup, je voulais juste revenir parce que j'avais jamais entendu parler du coup de comment ça se passe quand tu es diabétique et que tu as des enfants. Tu parlais d'un suivi, c'est-à-dire que est-ce que donc il y a eu le cadre de cette étude et est-ce qu'ils sont suivis pour je sais pas détecter des sortes de signes avant-coureurs si ça venait à se déclencher ou ils sont suivis comment par rapport à ça?
Non, ça c'est purement c'est du volontariat, c'est-à-dire si tu t'es inscrit dans cette étude. Il y avait des échantillons de sang et puis enfin voilà d'autres prélèvements qui étaient pris pour étudier le microbiote, mais après ils nous avaient proposé de suivre les autres enfants, mais c'était sur la base du volontariat. Nous on l'a pas fait parce que c'est aussi quand même un peu une contrainte, et puis c'est pour des enfants c'est un peu intrusif quand tu les obliges à faire des prises de sang et tout ça. Donc on n'a pas donné suite pour les autres, mais non après il n'y a pas plus de suivi que ça, mais la chance qu'on a, je dirais, c'est que on peut déceler les signes assez vite si jamais il y avait des signes précurseurs du diabète.
Oui, ok, oui, c'est sûr. Ok, c'était le dernier point que tu voulais partager ou...
Ouais, là, je crois qu'on a bien fait le tour.
Écoute, vraiment un immense merci, Grégory. Je te souhaite bon appétit. Je pense que ça va être le moment. Moi, j'ai faim en tout cas.
Ouais. Bon, merci.
Hello, c'est la Claire d'après-montage qui vous parle. Et en montant et en réécoutant cet épisode, ça m'a fait comme une décharge de positivité et de sérénité. Pas vous ? Déjà, se dire qu'après tout, être diabétique depuis si petit, ça a l'avantage de nous avoir évité le bouleversement de l'avant-après. Autrement dit, vraiment voir le verre à moitié plein. Que ce soit pour les diabétiques, les parents d'enfants diabétiques, ou tout le monde d'ailleurs, c'est sûrement l'une des choses à retenir de la façon qu'a Grégory de vivre avec le diabète, et de vivre tout court. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai trouvé que la variété des sujets que j'ai été amenée à aborder avec Grégory était vraiment large, que notre échange était assez dense, et pour tout vous dire, j'ai eu du mal à faire tenir tout ça en une heure au montage. D'ailleurs, je vous ai jamais demandé ce que vous pensiez du format du podcast, ni de son contenu. Est-ce que vous trouvez ça trop court, trop long? Est-ce que vous aimeriez que je pose d'autres questions aux invités? N'hésitez pas à me le dire en commentaire sur Facebook, Instagram ou par email. Vous trouverez toutes les infos pour me contacter et tous les comptes Happy Diabetes sur les réseaux sociaux sur happy-diabetes.com. Merci pour votre écoute, prenez soin de vous, à la prochaine!
feel it torn. But we won't keep trying to break each other's hearts. Gotta get to a place where we all can find the space.